RMC, face aux grandes gueules.
Raphaël Glucksmann, cofondateur de Place Publique, auteur du livre « Nous avons encore envie » aux éditions Alary, et presque candidat à l'élection présidentielle. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, c'est votre première dans les grandes gueules.
Un total bizutage.
On reproche souvent à la gauche d'être dans le déni sur les questions sécuritaires. Est-ce que vous trouvez que la justice est assez sévère avec les casseurs de samedi soir dernier ?
La première des choses, c'est de dire qu'on n'en peut plus, en fait, de plus pouvoir faire la fête sans qu'il y ait des casseurs qui viennent détruire, piller, et qu'il y a une responsabilité de chacun d'entre eux et qu'il faut qu'ils payent. Et je ne crois pas, moi, que ma gauche soit dans le déni vis-à-vis de la sécurité. D'ailleurs, dans le livre, j'en parle longuement. Je pense que la sécurité, c'est d'abord les quartiers populaires qui en sont victimes de l'insécurité, des délinquants, des dealers qui squattent en bas des immeubles, qui perturbent la vie des citoyennes et des citoyens, et que donc on doit avoir une réponse ultra ferme sur la sécurité. Par contre, ce que je dis, c'est que nous, on a une réponse crédible sur la sécurité, contrairement à la droite, ça va vous surprendre. Mais je suis convaincu de ça, parce que la sécurité, c'est la sanction. Et on assume la sanction, mais c'est pas que la sanction. C'est aussi la présence continue des services publics. C'est aussi la présence continue de la République dans tous les quartiers de France. Et par exemple, quand la droite, elle supprime la police de proximité, ben c'est idéologique.
Mais par exemple, prenons une mesure concrète que Sébastien Lecornu a annoncé cette semaine. Alors pour l'instant, on ne sait pas précisément comment ça va se mettre en place, mais il voudrait qu'une partie des allocations familiales ou des aides sociales touchées par le jeune ou le moins jeune qui a cassé servent à rembourser. Ça serait une bonne idée ?
Le principe du casseur-payeur, moi je suis pour. Par contre, je suis pour l'individualisation des peines. C'est-à-dire qu'on va pas punir les familles pour les forfaits, les délits d'un individu. En fait, on est tous responsables. On est tous responsables de ses actions. Et si vous avez une famille avec une mère seule qui élève 4 enfants et il y en a un qui va casser, vous allez faire quoi ? Supprimer les allocs pour les 3 autres enfants ? Vraiment. Enfin, il y a un principe dans notre droit, il faut s'y tenir.
Donc,
c'est
coup,
l'individualisation
lui,
des peines. Moi, je suis pour que ceux qui commettent des forfaits,
oui, c'est à cause de moi que tout le monde est pénalisé.
Qu'on est responsable civilement des dommages causés par son enfant mineur. Oui. Donc, à la limite, si vous... Normalement, un enfant mineur qui serait condamné à verser, par exemple, une certaine somme d'argent, c'est aux parents de s'en acquitter. Ce serait juste une manière de prélever à la source ce paiement. Je suis sûr que vous n'êtes pas contre le prélèvement à la source.
Et en cas de décès, on peut être responsable des dettes de ses parents. Oui, mais ça peut arriver. Donc il n'y a pas d'individualisation, toujours.
Déjà, la majorité de ceux qui ont été arrêtés après les casses, ce n'étaient pas des mineurs. C'était des majeurs. Donc le principe du casseur-payeur, moi je suis pour. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, je ferai très attention parce que c'est extrêmement douloureux socialement. Vous êtes une mère seule, vous vivez sans aide, vous faites ce que vous pouvez pour élever vos enfants. Eh bien quoi, on va vous supprimer ensuite toutes les allocs parce que vous avez un de vos enfants qui a commis un délit, qui a commis un crime. Je ne crois pas que socialement ce soit la réponse. Mais je ne pense pas qu'on soit dans le déni du tout. Je ne pense pas qu'on soit dans le déni du tout.
Donc votre gauche, c'est plus de sécurité ?
C'est plus de sécurité et c'est une réponse aux fractures françaises qui expliquent les tensions qui minent notre société. Moi, ce qui m'obsède, c'est qu'en fait, on ne fait plus peuple. On n'arrive plus à former un peuple. On est traversé par des violences, par des tensions, par des replis identitaires, par des... par une sorte d'archipélisation de notre société. Et moi, tout ce que je propose, c'est un nouveau contrat patriotique pour... qu'on refasse peuple à nouveau. Par exemple, le service civique obligatoire. On se plaint aujourd'hui du fait que l'école n'arrive plus à fabriquer des citoyens français. Eh ben, le problème, c'est qu'il n'y avait pas que l'école avant. Il y avait aussi le service militaire. Il y avait des institutions collectives qui fabriquaient de la France. Eh bien, on l'a supprimé, le service militaire, et on ne s'est jamais demandé par quoi on le remplaçait. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut un service civique de 10 mois où chaque Français...
Mathieu Pigasse, qui était ici même dans les grandes gueules, avait dit « Vous êtes de droite ». Bon, c'est une boutade, mais il avait raison.
Mais absolument pas. Il n'y a rien de plus à gauche que de vouloir faire peuple. Il n'y a rien de plus à gauche que de dire que tous les enfants... Français doivent se croiser dans leur vie. Qu'on fait pas une république quand un môme qui naît à Trappes, un môme qui naît dans le 7e arrondissement de Paris et un môme qui naît en Picardie, eh bien, ne se croisent jamais dans leur existence. Ils ont rien en commun.
Un service militaire plutôt qu'un service.
Parce que l'armée n'en veut pas, voyez-vous. Moi, j'ai travaillé. Ceux qui sont le plus hostiles à un rétablissement du service militaire, c'est les militaires. Ils disent qu'ils n'ont pas les moyens de les accueillir. Et donc, il y aura une dimension militaire volontaire. Mais chaque enfant français garçon, fille, peu importe d'où il vient et quel est son quartier de naissance, devra donner de son temps et de son énergie à la collectivité. Ça le sortira de son environnement immédiat. Ça permettra aux Français de se croiser. Alors, et qu'on soit plus enfermé dans les bulles qui sont les nôtres aujourd'hui.
On a beaucoup parlé des impôts tout à l'heure. Quand un social-démocrate arrive au pouvoir, il augmente les impôts. Est-ce que si vous arrivez au pouvoir, il y aura encore une augmentation des impôts?
Mais il n'y aura pas une augmentation générale des impôts. Par contre, les ultra riches. Les ultra riches.
C'est pas 3 ans que tu vas attendre finalement.
Avant de partir. On est dans une situation aujourd'hui où on a besoin de faire un effort collectif. Que ceux qui ont le plus participent le plus à cet effort, c'est la base même d'un contrat social.
Déjà 75% de l'impôt sur le revenu est payé par 10% des plus aisés en France.
Et vous savez quoi? En France, on est dans une situation où les classes moyennes supérieures et les riches payent beaucoup d'impôts par rapport à nos voisins européens. Mais par contre, les ultra-riches, ceux qui ont le moyen de pas avoir d'impôts sur le revenu parce qu'en fait, ils se payent en dividendes uniquement, eh bien, eux, ils payent moins d'impôts que les riches et les classes moyennes supérieures.
La taxe Zuckman?
Eh bien, on va étudier. On a compris qu'il y avait des problèmes, par exemple, pour les entreprises de la tech qui ont une capitalisation et qui peuvent pas sortir le cash. Donc, mais par contre, l'ambition de cette taxe, oui, c'est insupportable. Insupportable. Et pour les plus grands patrimoines, c'est-à-dire 0,1% des Français. De la même manière, nous, on va poser sur la table la question de l'héritage, mais ça ne concernera pas les Françaises et les Français qui héritent d'un appartement familial ou qui héritent d'un petit pavillon. Ça concernera les méga héritages. Parce que je ne veux pas que la France devienne une société de rentiers et d'héritiers. Je veux qu'on remette les travailleurs au cœur du contrat social. Qu'on soit à nouveau une société de travailleurs. Donc il va falloir revoir la fiscalité. Moins d'impôts sur le travail, plus sur l'héritage ou sur la rente.
Non, mais l'héritage, attention, il y a héritage et héritage.
Entièrement d'accord.
Il y a héritage qui s'est construit pendant une vie, qu'on donne à ses enfants, et on sait que les enfants vont hériter, mais qu'ils ont perdu la vie de leurs parents, parce que l'héritage se construit sur une vie, et il y a un héritage qui s'est construit sur des centaines d'années.
Et ça s'appelle du privilège.
Voilà, et là c'est différent. On peut pas considérer les deux de la même façon.
Et ben je suis entièrement d'accord.
Si tu hérites de ton arrière grand-père, c'est pas pareil que si tu hérites de tes parents ou souvent malheureusement comme ils ont sacrifié leur vie pour toi.
Et ben on peut pas
le taxer de la même façon.
Je suis entièrement d'accord avec ça. Et c'est pour ça qu'il faut pas faire n'importe quoi et que on est dans une situation où en fait quand on dit l'héritage, eh bien il y a une majorité de Français qui hérite d'une vie de labeur. Et ça doit échapper à ça. Par contre, ces transmissions de privilèges qui ossifient les inégalités, vous savez, aujourd'hui, honnêtement, il y a 40 ans, à la fin de votre vie, les 2/3 de votre fortune, c'était le produit de votre travail. Aujourd'hui, c'est l'inverse. À la fin de votre vie, les 2/3 de votre fortune, c'est le produit de l'héritage. Ça veut dire qu'il y a une ossification des inégalités. Et moi, c'est contre ça que je veux me battre.
Parce que le travail ne paie plus.
Exactement, parce que le travail ne paie plus assez.
Oui, mais
donc la première des choses.
Mais il y a une grande partie qui est prise en charge.
Mais oui, mais justement, si le travail ne paie plus, qu'est-ce que vous faites pour que le travail paye?
Alors, là,
qu'est-ce que vous faites comme économie d'échelle pour la France, pour réduire le train de vie de l'État, et qu'est-ce que vous faites pour approcher le bruit du net?
Alors, la première des choses à faire, c'est une nouvelle répartition, parce que tout le monde veut rapprocher le bruit du net. Le problème, c'est que personne n'explique comment on finance. Et si vous faites ça, eh bien, il va falloir faire une nouvelle répartition. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la rente, le capital, l'héritage, sont moins taxés que le travail. Donc,
vous taxez d'un côté pour pouvoir réduire.
Libérer de l'autre.
D'accord.
Et par ailleurs.
Qui dit ça. Ouais. Allez-y.
Voilà. Bah,
oui, mais je savais pas.
C'est son cheval de bataille, moi.
Vous
avez votre ministre de l'économie si vous êtes élu.
Aujourd'hui, tout le monde dit. Oh là là, tout le monde dit aujourd'hui, nos démocraties sont balayées par le vent du populisme. C'est ça le thème central. Tout le monde dit la même chose. Et c'est vrai partout dans les démocraties occidentales. Ouais. Mais alors, on s'interroge jamais sur les causes profondes de ça. Pourquoi ces démocraties qui étaient très stables, tout d'un coup, deviennent très friables? Moi, je vais vous le dire. C'est qu'en fait, les démocraties occidentales, elles ont eu 40 ans de stabilité et de progrès grâce à une promesse qui était faite aux classes moyennes et aux classes populaires, qui était d'améliorer leurs conditions de vie par le travail.
Tout à fait. Et que leurs enfants auraient une meilleure condition.
Et à partir du moment où cette promesse n'est plus tenue, eh bien, la démocratie s'effrite. Et aujourd'hui, vous avez les mouvements populistes. Vous voulez barrer la route au Rassemblement National, regardez une carte électorale. Regardez une carte électorale.
Bien sûr.
Plus vous êtes loin d'une gare, plus vous votez RN, et regardez aussi une carte électorale en matière démographique. Les jeunes actifs, aujourd'hui, votent majoritairement pour Jordan Bardella, alors que les retraités votent majoritairement pour le centre-gauche et le centre-droit. Ça doit nous interpeller. Si ça ne nous questionne pas, ça, eh bien, de toute façon, on va finir par perdre. Appeler au barrage ne suffira pas.
Charles a consigné.
Alors, j'ai lu en grande partie cet excellent livre écrit, je pense, par un jeune normalien aidé de ChatGPT.
Non, vous savez quoi ? Alors là, vous pouvez me reconnaître un truc, c'est que je suis sans doute l'un des seuls politiques qui écrit ses livres lui-même. Il j'ai commencé d'ailleurs ma vie en écrivant des livres.
Pour les autres,
on me l'a assez reproché.
Je sais qu'on manque quand même de temps quand on fait une campagne. Manifestement,
vous avez manqué de temps pour le lire.
Non, peut-être. Non, c'est pas ça. C'est que vous, je suis pas certain. Si vous voulez, bon, ça m'a fait.
Liane n'arrive pas encore à lire à votre place.
Tant mieux si vous écrivez aussi bien que quelqu'un qui l'aurait fait à temps plein. J'ai trouvé ça un peu de ChatGPT. Je trouve ça intéressant. Je trouve que votre personnage est intéressant parce que vous êtes, et je le dis sans agressivité. Et je le dis avec bienveillance, mais je pense quand même profondément que vous êtes, en tout cas à l'heure actuelle...
Le début, c'est un enchaînement terrible.
Je pense que vous êtes vraiment le contraire de ce dont notre pays a besoin. C'est-à-dire, vous êtes, mais sur le fond, je ne parle pas de votre personnalité, etc. Vous êtes quelqu'un de sympathique, d'agréable. Manifestement, vous êtes quand même assez sincère dans ce que vous dites. Vous incarnez plutôt bien votre gauche, qui est la gauche bobo. J'ai dit une fois ici que vous sembliez penser que ce qui est bon pour le canal Saint-Martin est bon pour la France. Je le maintiens. Vous mettez maintenant une cravate pour faire plus président, etc. Mais fondamentalement, c'est quand même ça. Et moi, ce que je pense profondément, c'est que on est déjà gouverné par vous depuis 30 ans à peu près. Ça fait 30 ans que les bobos ont le pouvoir.
Vous avez des hallucinations, vous m'avez vu au pouvoir depuis 30 ans.
Ça fait 30 ans que les bobos tiennent les médias en France. Ça fait 30 ans qu'ils peuplent les grandes écoles. Ça fait 30 ans qu'ils envoient leurs représentants diriger des ministères. Ça fait 30 ans qu'ils sont dans les cabinets de ces ministères. Ça fait 30 ans qu'on applique leurs idées. Et quel est le résultat de ces belles idées, de ces belles âmes, etc. C'est quand même un système qui aujourd'hui s'écroule sur lui-même. Puisque à la fin des fins, j'ai bien lu... Vous ne tirez pas les vous faites certains constats qu'on peut partager sur la désindustrialisation, sur un certain nombre de choses, mais en même temps vous n'en tirez aucune conséquence puisque pour sauver ce système, je veux dire, si vous étiez vraiment à gauche et si vous vouliez vraiment sauver le système français, vous défendriez la retraite à 70 ans. Vous défendriez la suppression d'un million de fonctionnaires, d'un million de postes de fonctionnaires, tout ce qui pourrait permettre à peu près au système français tel qu'il est aujourd'hui.
Si j'étais vraiment de gauche, je serais de droite.
Mais ça n'est pas
votre conclusion au bout d'un
télégramme. Ce que dit Charles, c'est est-ce que finalement vous ne ressemblez pas à ceux qui sont déjà au pouvoir?
Depuis 15 ans,
François Hollande et Emmanuel Macron.
Ce que je remarque, c'est que vous n'avez pas vraiment lu le livre, mais c'est pas grave, vous n'avez pas le temps.
J'en ai lu des gros morceaux.
Et voilà, donc vous avez
j'ai
pas vraiment lu.
J'ai un morceau très drôle sur la SNCF que j'aimerais lire après.
Voilà, donc vous, sur mon amour de la SNCF enfant.
Sur votre côté citoyen soviétique. Je vais le lire.
Non, mais alors laissez-moi vous répondre d'abord. Parce que la vérité, c'est que c'est une enfilade de clichés, ce que vous nous sortez, qui prouve que vous n'avez pas lu le livre, mais c'est pas grave. Parce que justement, je m'oppose à tout cette tendance de l'éternelle répétition du même. D'un pays dont les élites ont failli. Et moi, quand j'ai commencé à mes études à Sciences Po, la première des choses dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, cette classe sociale, ma classe, endogame, eh bien, allait droit dans le mur. Parce qu'elle avait renoncé à tout ce qui permettait de faire la grandeur de la France. L'abandon des usines, ça date des années 80-90, et l'ensemble des élites françaises, économiques et politiques, eh bien, ont décidé qu'on pouvait faire un pays sans usines. La vérité, c'est que ça a créé à la fois la fracture sociale, la destruction des territoires, la perte de souveraineté et la dette. Puisque aujourd'hui, on subventionne la consommation de produits étrangers au lieu d'avoir des industries qui produisent de la richesse. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est qu'en fait, on a pensé que la France était une nation qui pouvait exister sans qu'on la construise. Eh bien moi, je pense que ça, c'est l'erreur fondamentale de ces élites qui se sont endormies. Et que donc, il faut reconstruire le pays. Et ça, c'est pas pour le canal Saint-Martin. Vous habitez canal Saint-Martin, honnêtement, est-ce que vous avez besoin d'appartenir à un peuple et à une nation, beaucoup moins que si vous habitez dans un quartier politique de la ville ou que si vous habitez dans une sous-préfecture qui perd ses services publics. Donc moi, ce que je veux justement, c'est qu'on refasse nation ensemble. Oui, mais rien de bobo cette histoire. Mais j'en tire toutes les conséquences. Si... Le seul problème, monsieur Consigny, c'est que mes conséquences ne sont pas les vôtres. Vous, vous aimeriez qu'à partir de mes diagnostics, j'explique qu'il faut être encore plus libéral, qu'il faut tout ouvrir, qu'il faut tout casser dans les services publics. Eh bien, moi, je ne veux pas de ça. Moi, ce que je veux, c'est sauver l'école publique. Ce que je veux, c'est des services publics qui soient efficaces. Ce que je veux, moi, c'est qu'on puisse, en France...
Pardon ? Vous voulez pas les réformer, mais les services publics? Vous êtes pour les 35 heures, vous voulez pas réduire le nombre de fonctionnaires.
Je ne dis que ça.
Vous voulez pas désengager l'État de missions dans lesquelles il n'est plus utile du tout.
Ce que je veux, c'est un État qui retourne, à ce qu'il était avant, c'est-à-dire un État stratège. Juste une question. Parce qu'aujourd'hui, le gros problème aujourd'hui, c'est le prix à la pompe. D'accord? Ça, tout le monde en voit la conséquence. Eh bien, en 73, on a eu une crise pétrolière. D'accord? Les pays membres de l'OPEP ont décidé d'augmenter le prix du baril. À cette époque-là, on avait un État stratège. Qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé que la souveraineté énergétique de la France méritait un grand plan. Ça s'appelle le plan Messmer. C'était construire des réacteurs nucléaires. C'était l'industrie nucléaire civile. 55 réacteurs nucléaires construits en 20 ans. Aujourd'hui, c'est la deuxième crise pétro-gazière en 5 ans. Il y en a une en 2021-2022 suite aux décisions de Vladimir Poutine. Et aujourd'hui, une suite aux décisions de Donald Trump et de Benjamin Netanyahu. Eh bien... En 2021-2022, on a mis 72 milliards de subventions dans les fossiles et on n'a pas du tout préparé la révolution énergétique qui nous permettrait d'être indépendants.
Électrifier le pays.
Il faut électrifier, il faut des voitures électriques. Alors, et il faut des transports en commun. Mais ça c'est...
Mais des petites voitures électriques, vous
des
avez...
Des petites voitures électriques.
Raphaël Glucksmann.
Des R5, 1 million de R5.
1 million à 100 euros.
Raphaël Glucksmann. En leasing social. C'est-à-dire que pour 100 euros, vous avez accès à une voiture électrique quand vous touchez moins de 2000 euros par mois et que vous avez plus de 30 bornes à faire par jour pour aller travailler.
Alors, ce seront des BYD, des chinoises.
Non, ce seront des R5. Ouais. On va en faire l'objet culte parce qu'il y aura un bail.
Vous imposez la bagnole.
Il y a une loi, achetée européenne.
On va aller tout de suite avec Raphaël Glucksmann.
Et vous économiserez 200 euros par mois.
C'est le retour de la régie Renault au service du peuple.
Bien oui, c'est bien la régie Renault.
Allez, ah bah voyez,
bah allez, c'est bien la régie Renault.
Avec les grandes gueules.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4. L'IGG, les grandes gueules, avec Raphaël Glucksmann. Il est avec nous, place publique. Nous avons encore envie, le livre est aux éditions Alary. Olivier, ensuite Flora et Mourad.
Très rapidement, une question un peu popole, entre guillemets, mais Olivier Faure, le leader des socialistes, propose une double primaire, c'est-à-dire une primaire au sein du Parti Socialiste et ensuite une primaire un peu plus large qui pourrait englober un François Ruffin ou une Marine Tondelier. Est-ce que vous pourriez participer à ce système?
Mais j'ai pas compris, en fait, si je suis sincère et direct, j'ai toujours pas compris la proposition. Donc là, on va sûrement avoir une réunion et on va en parler. Mais là, en l'état, enfin, moi, j'ai toujours dit que la primaire était une machine à perdre. Si la proposition qui m'est faite, c'est d'en avoir deux au lieu d'une. Je vois pas le progrès, donc.
C'est deux machines à perdre pour vous.
Voilà. Par contre, ce que je veux dire, et je sais pas si c'est très populaire en ce moment, mais que moi, ce que je veux, c'est que les militantes et les militants socialistes aient leur mot à dire, et donc qu'il y ait un processus, oui, de désignation qui implique les militantes et les militants. Moi, j'ai fait une campagne aux européennes avec ces militants, et je sais l'importance qu'ils ont. Je sais ce que je leur dois. Je sais pourquoi on a fait 14% grâce à leur motivation, grâce à ce qui est rare aujourd'hui, hein, de se lever le matin pour aller distribuer des tracts ou coller des affiches la nuit. C'est pas dans l'époque individualiste qu'on est en train de vivre. Moi, j'ai un respect infini pour les militantes et les militants, mais ce processus-là, je l'ai pas compris.
Flora.
Moi, je me bats sur les plateaux télé depuis des années pour qu'on interdise TikTok aux mineurs. J'ai été contente quand le gouvernement de Macron l'a proposé, sauf que en fait, c'est toujours pas effectif. Au même titre que quand ils ont voulu interdire le porno, il suffit de télécharger un VPN, ça prend 10 secondes et parfois c'est gratuit. Vous proposez aussi d'interdire TikTok aux mineurs et de reprendre la main sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous réussiriez là où la Macronie a échoué?
Parce que la Macronie, comme d'habitude, fait des effets d'annonce et ensuite il n'y a pas de politique derrière pour que ce soit effectif. Enfin, c'est ça, des effets d'annonce. La France, elle a le tournis au bout de 10 ans de cette com permanente. Il y a des lois. Moi, je sais parce que j'ai contribué à les rédiger. Il y a le Digital Services Act à l'échelle européenne pour réguler les grandes plateformes. Aujourd'hui,
loi TikTok, qui n'est pas appliquée.
Voilà, TikTok est en contravention avec ces lois. TikTok fausse les élections en Roumanie, aucune sanction. TikTok ne respecte aucune des règles européennes, aucune sanction. Et donc, il faut juste avoir le courage, eh bien, d'appliquer les règles. Moi, j'aurais ce courage, je n'aurais pas la main qui tremble. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas que la France devienne une colonie numérique américaine et chinoise.
C'est déjà le cas.
C'est ce qui est en train d'avoir lieu. Mais simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça détruit notre pacte social. Vous parlez avec les enseignantes et les enseignants. Première chose que vous dites, on est en compétition avec des algorithmes.
C'est fou ce que vous...
En Chine ou aux États-Unis, sur lesquels nous n'avons aucune prise. Des influenceurs viennent remettre en cause notre enseignement et on est abandonné face à ça. Eh bien, moi, je n'abandonnerai pas l'école publique, je n'abandonnerai pas la République, je n'abandonnerai pas nos enfants, je n'abandonnerai pas nos familles et je ne plierai pas devant ce nouveau capitalisme international qui est celui du numérique, des grandes plateformes et qui considère nos vies, nos cerveaux comme la nouvelle matière première.
Mourad Boudjelal.
Vous avez dit tout à l'heure que vous vouliez réindustrialiser le pays, c'est un vœu pieux, mais il y a un petit côté oxymore, c'est qu'à côté de ça, vous êtes un pro-européen.
Oui.
Voilà, donc être pro-européen, ça sous-entend d'abord que le pays n'a plus aucune souveraineté, puisque la souveraineté, elle est à Bruxelles. Et la deuxième chose, c'est le libre-échange. Le libre-échange, dans un modèle économique tel qu'il existe aujourd'hui en France, la réindustrialisation est totalement impossible. On a un coût premier qui est largement supérieur à tous les pays qui participent au libre-échange. Donc c'est juste impossible. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est comment vouloir retrouver la République, comment vouloir... Il y a plein de choses auxquelles j'adhère dans votre programme, tout en restant européen. Comment vous faites, puisque vous n'aurez pas le pouvoir. Vous allez être juste un exécutant des ordres de Ursula ou d'une autre, ou d'un autre, pour diriger le pays France.
On est d'accord sur l'ambition pour la France, mais oui. Là où on est en désaccord total, c'est qu'on a besoin de l'Europe pour que cette ambition elle se matérialise. On a besoin de l'Europe pour lutter contre le dumping chinois. Aujourd'hui, c'est à l'échelle européenne...
Par les agriculteurs. Hein.
Qu'on peut protéger, c'est à l'échelle européenne qu'on peut protéger nos entreprises face au dumping chinois. C'est à l'échelle européenne qu'on peut reprendre la main face aux géants du numérique américains.
En reprenant nos frontières économiques, on nous protège.
Ces frontières économiques, elles doivent être à l'échelle européenne. Parce que sinon, on n'a pas la taille critique.
Non, c'est pas possible.
On n'a pas la taille critique.
Il n'y a pas un modèle social unique en Europe. Ce n'est pas possible.
Vous avez mentionné les agriculteurs. Moi, je vais vous dire, les agriculteurs, aujourd'hui, ils sont les victimes d'une politique agricole commune profondément inégalitaire. Et qui défend cette politique agricole commune profondément inégalitaire? C'est la France, c'est pas l'Europe.
Oui,
c'est la France. En réalité, on a aujourd'hui 20% des exploitations, les grandes exploitations céréalières qui captent 80% des aides. Et dans le même temps, les petits agriculteurs qui touchent 700 balles par mois pour travailler 70 heures par semaine, ils ne touchent pas d'aide. Parce que la France refuse qu'il y ait des plafonds aux aides. Parce que la France refuse qu'on change le système de subvention. Donc, moi, je vais vous le dire.
On a sacrifié nos agriculteurs en Europe pour que les Allemands puissent vendre des BMW et des Volkswagen.
Moi, je lutte à l'échelle européenne contre le libre-échange, contre le Mercosur, contre les grands pays du libre-échange.
À l'échelle européenne, vous n'êtes pas majorité, donc vous le subissez. Donc, comment le faire en restant en Europe?
Est-ce qu'on peut prendre un pari ici maintenant? Prends un pari qu'au deuxième tour de l'élection présidentielle, vous appellerez à voter Jean-Luc Mélenchon. À Jordan Bardella.
On prend un pari.
Ou inversement.
Et je reviens chez vous et vous verrez, c'est vous qui aurez perdu le pari.
Le pari,
c'est que non seulement ce sera la gauche démocratique et républicaine qui sera au deuxième tour, qu'elle battra l'extrême droite et qu'elle gagnera cette élection. Et moi, je ne dévierai pas de cette ligne. J'en suis convaincu. Je suis sûr que les Françaises et les Français ne veulent pas de la continuité du macronisme. Ils ne voteront pas pour un ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron. Ils ne voteront pas non plus pour un affrontement entre personnes qui veulent fracturer la société. Ouais. Entre Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella, ils nous expliquent les deux qu'il n'y a rien. Eh bien, moi, je vous le dis, il y a quelque chose. Il y a même l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la République. Nous allons relever le drapeau de la République. Si vous voulez gagner, il faudra retourner la table. On va retourner la table et on va offrir un espoir parce que c'est pas juste barrer la route aux extrêmes.
Ça sera vous. Parce que vous avez dit 3 mois, alors on sent bien que c'est vous.
Ça sera la meilleure personne, la personne la mieux placée, et elle retournera la table. Elle aura l'obligation de retourner la table même.
Il a déjà retourné Boudjelal, il a été tendre comme un agneau.
Retournez Mourad.
Merci, on parie un déjeuner avec l'équipe des GG.
Et vous m'inviterez donc à déjeuner.
Rendez-vous au mois de mai.
Mais un bon déjeuner, pas.
Pourquoi on est des plouchons?
Vous êtes un adepte du McDo, ça compte pas McDonald's.
J'observe que le président président Glucksmann a eu un très bon réflexe, c'est qu'il ne veut pas vous inviter à l'Élysée.
Voilà.
C'est vous qui payez le déjeuner.
Mais on ira chez Mastercard.
J'ai trop de respect pour votre indépendance.
On ira chez Mastercard.
Les journalistes payent leur déjeuner.
Merci de passer par les GG. Le livre, nous avons encore envie, aux éditions Alary, Alary Édition.